Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien, gros sujet de discussion. On va recevoir, en tout cas on aura au téléphone, l'auteur Olivier Bonassi pour son livre « Dieu, la science, les preuves ». Il y a tellement de choses à discuter dans tout ça. Et en deuxième partie d'émission, eh bien, nous aurons Noémie Chelariou pour sa chronique surprise. Pour ceux qui suivent l'émission, ils savent ce que ça veut dire. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ils l'auront. Auteur, compositrice, interprète. Elle va nous faire une surprise encore fabuleuse, comme d'habitude. Pour l'instant, nous partons en musique avec Jean-Pierre Ferland qui nous chante « Si Dieu existe ».
Personne. Il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimé. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, non visage à l'envers, tout petit, si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux. Un fou comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou comme un ange. J'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole. Tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes dans de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu l'aimes. Les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou. Comme un ange, personne. Personne.
Et voilà, donc nous sommes en ligne avec Olivier Bonassi. Bonjour Olivier.
Bonjour Arlette.
Alors d'abord, vous dire que ce livre... Je suis partie dans tous les sens, ça a été ma plus grande difficulté de trouver des questions avec vous parce que j'avais envie de vous en poser 10 000.
Ah oui, ben c'est bien, on a le temps alors.
Il est super bien écrit parce que j'ai presque tout compris.
Très bien, oui, c'était fait pour ça.
Alors d'abord, un livre pour répondre à une question fondamentale, existe-t-il un Dieu créateur ? Mais il y a plein d'autres choses dessus, c'est-à-dire que j'ai lu l'histoire des scientifiques comme un roman plutôt noir, mais un roman quand même.
Oui, absolument, c'est un récit, c'est le récit des découvertes scientifiques des 100 dernières années qui ont complètement changé la donne. Et ça s'est présenté pour que tout le monde puisse comprendre, parce qu'en fait, derrière les découvertes scientifiques, il y a quand même des idées très simples, souvent. Et donc, c'est fait pour que les gens puissent comprendre. C'est une histoire, effectivement, c'est un récit.
Et alors, voir qu'on crée des guerres et des choses abominables simplement parce que l'univers a un début et il a une fin, c'est tout simplement incroyable.
Oui et non, parce qu'en fait, ça c'est très important, si vous voulez, les matérialistes, les régimes matérialistes athées et tous les matérialistes de tous les temps ont toujours pensé que l'univers était là depuis toujours.
Oui.
Parce que c'est un très vieux matérialiste qui s'appelait Lucrèce, romain, et puis Parménide, le grec, ils ont dit « ex nihilo nihil », ça veut dire du néant absolu, il n'y a rien qui peut sortir. Donc si un jour il y avait eu un néant absolu, c'est-à-dire rien du tout, eh ben, il y aurait toujours rien du tout. Donc il y a forcément quelque chose qui a toujours existé. Alors, pour les matérialistes, c'est l'univers, la matière, le temps est infini dans le passé. Et pour les croyants, c'est au contraire un Dieu qui, lui, est éternel et qui a créé un monde. Alors, soit il aurait pu le créer de manière éternelle, mais il l'a créé dans le temps. Et en fait, aujourd'hui, c'est très très dur de penser que le temps est infini dans le passé. Et ça, effectivement, ça a été découvert par des scientifiques. Et finalement, c'est ça qui a rendu fou furieux les régimes athées, et donc le régime communiste en particulier, les nazis aussi.
Oui.
Parce que les physiciens qui découvraient qu'il y avait un début à l'univers, ça n'allait pas du tout dans leur sens.
Ben oui, mais ça a été tellement loin, quoi. C'est absolument fascinant de lire ça. Et en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai envie d'avoir un questionnement qui part dans tous les sens. Même quand on a parlé, par exemple, je vais y aller comme je l'ai lu, puis les choses qui m'ont interpellé le plus. Hein. Donc, quand on parle du code génétique, de l'ADN,
oui.
Lire que les informations sont... Faut que je le lise, parce que quand même, je l'ai noté. Les informations sont stockées dans un noyau de 6 millièmes de millimètre et qu'il faudrait 1 million de pages pour pouvoir écrire tout ce qu'il y a de stocké là-dedans. C'est quand même,
oui,
hallucinant.
C'est un vrai prodige. Alors, l'ADN, effectivement, l'ADN, c'est un... On a découvert ça en 1953. Donc l'ADN est le seul code de tout le vivant, c'est-à-dire tout ce qui est vivant sur la Terre, des bactéries jusqu'à l'homme, en passant par toutes les plantes et tous les animaux, c'est composé de cellules. Et il y a un seul code qui permet la reproduction, c'est l'ADN. Or l'ADN, effectivement, comme vous l'avez bien noté, c'est une technologie hallucinante qui est née toute seule il y a 3,8 milliards d'années sur la Terre. Et dans un brin d'ADN, la densité d'information, elle est 44 000 milliards de fois plus grande que dans ce que l'homme arrive à faire de plus petit comme circuit intégré. Oui. C'est même, quelque chose qui...
Même quand vous le dites, ça a des difficultés à rentrer dans mon cerveau, comme c'est dingue. Allô ? Je vous entends plus. Allô ? J'ai un petit problème de son. Attendez, alors on va reprendre notre invité. Parce que pour l'instant, j'ai comme un blocage. Ah, d'accord. Alors, on va le rappeler dans un instant. Donc, comme je disais il y a un instant, parler du code génétique, parler des informations qu'il y a dans l'ADN, c'est absolument fantastique. C'est comment dire, quand on lit ce livre, on se rend compte qu'il y a tellement d'informations, qu'on part d'un organisme unicellulaire qui arrive à se reproduire. Ben, on va en parler dans un instant parce qu'on va prendre le temps de rappeler notre invité. Il semblerait que nous avons eu une coupure téléphonique avec Paris, mais il va revenir. Donc, dans ce livre, ils nous disent aussi que l'ADN apparaît comme la cause historique, le début d'une histoire, mais personne ne sait d'où il vient ni comment il fait pour produire la vie. Et c'est de ça dont je voulais discuter aussi avec lui dès qu'il sera de retour. Mais le voilà. Est-ce que c'est bon ? Alors voilà. Allô ? Allô, Olivier ? Allô ?
Oui, excusez-moi,
alors,
ça a coupé.
On vous avait perdu, mais j'étais en train de lire, j'étais en train de continuer à expliquer aux auditeurs et puis de lire que l'ADN, on sait pas d'où il vient vraiment et ni comment il a fait pour produire la vie.
Oui, absolument. C'est né il y a 3,8 milliards d'années sur la Terre. Personne ne sait comment. Et c'est une technologie fabuleuse qui fait rêver tous les savants. Et puis c'est né tout seul des lois de l'univers. Et donc ça contribue à ce qu'on appelle les réglages fins de l'univers, c'est-à-dire des choses totalement improbables qui sont nécessaires pour que la vie puisse exister et qu'on a découvert dans les 50 ou 60 dernières années, si vous voulez.
Oui, c'est ça.
Avant, on ne savait pas tout ça.
Mais c'est,
avant,
c'est...
on savait pas que c'était si complexe, on ne savait pas que c'était si improbable, si vous voulez. C'est improbable en biologie, mais c'est improbable aussi en physique. Si vous changez quoi que ce soit dans les paramètres initiaux de l'univers ou dans les lois de la physique ou dans les lois de la biologie, eh ben, les atomes peuvent plus exister, les étoiles peuvent plus brûler des milliards d'années et la vie complexe peut pas exister de mille manières. Et donc ça, c'est une découverte fantastique qui fait se poser des questions nouvelles, des questions qu'on pouvait pas se poser avant et qui sont vraiment conduisent à se poser la question de Dieu d'une autre manière, si vous voulez.
Mais complètement. Puis quand on y pense, qu'on croit ou non en Dieu, il y a quelque chose, c'est réglé. D'ailleurs, vous avez à un moment donné dans le livre de nombreux témoignages de grands savants qui sont absolument magnifiques. Et il y a un témoignage de, je ne veux pas dire son nom parce que je ne veux pas l'écorcher, mais d'un astronome bouddhiste qui est prof d'astrophysique. Voilà, vous le dites très bien, bravo, vous avez gagné. Eh bien, en même temps, il explique que c'est presque mathématique. Il y a quelque chose qui a été fait pour que tout s'enclenche. On dirait que.
Alors le premier qui découvre ça, c'est un grand physicien de Princeton, Robert Dicke, celui qui a aidé notre ami, le prix Nobel Robert Wilson, qui a écrit la préface, à découvrir le rayonnement de fond du Big Bang. Dans les années 60, Robert Dicke, donc, après cette découverte, il est convaincu, comme tous les savants, que le Big Bang est vrai. Et il reprend les équations d'Einstein et il calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion de l'univers était changée du 15e chiffre après la virgule, voilà, dans un sens ou dans l'autre, on ne serait plus là pour en parler. Et il tombe de sa chaise, si vous voulez, il ne comprend pas, il dit c'est quelque chose de fou. Et derrière lui, il y a des dizaines de savants qui vont faire des dizaines de découvertes comparable en disant si vous changez la vitesse de la lumière, la constante de gravité, la constante électromagnétique ou le poids de l'électron, le poids du neutron, et ben si vous changez un tout petit peu ces grandeurs-là, rien ne peut fonctionner, le carbone peut pas se synthétiser, l'oxygène peut pas arriver, les étoiles peuvent pas se former, enfin il y a plein de conséquences. On sait modéliser tout ça avec des ordinateurs maintenant et on s'aperçoit donc qu'il y a un réglage absolument dingue de toutes les données de l'univers dans la physique et la biologie. Et ça, il n'y a que deux solutions, si vous voulez. Soit, s'il y a un Dieu, ben, c'est lui qui a réglé ça comme un esprit supérieurement intelligent. Vous savez, c'est la phrase d'Einstein. Einstein dit « Toute personne sérieusement impliquée en science finira par découvrir qu'un esprit infiniment intelligent, infiniment supérieur à celui de l'homme, se manifeste dans les lois de l'univers. » Donc ça, c'est la première solution. Et puis, si vous voulez absolument pas croire en Dieu, il faut imaginer qu'il y a quelque part, une machine à créer des univers avec une quantité d'univers faramineuse qui existerait et qui pourrait changer les constantes et qui serait assez bien réglée, elle aussi, pour changer les constantes juste comme il faut, pour un jour aboutir à tous les paramètres qui sont nécessaires pour que l'univers existe. Mais toutes ces théories sont quand même, pour plein de raisons, extrêmement compliquées et sans doute invérifiables à jamais, et donc, à mon avis, très dures à croire. Voilà.
Oui, mais quand on dit Dieu, on peut lui donner aussi un tas d'autres noms suivant ce à quoi on croit. Mais en tout cas, il y a une intelligence derrière. C'est presque obligatoire. Puis plus j'avançais dans votre livre et plus j'étais là-dedans aussi.
Alors, si vous voulez, nous, Dieu, on le prend effectivement en version minimale. C'est-à-dire, on ne parle pas de qui est Dieu, de est-ce qu'il s'est révélé, comment vivre avec lui, tout ça, on n'en parle pas. Mais on prend la définition des philosophies ou des religions, ou de saint Thomas d'Aquin, vous voyez, qui dit que Dieu est un être qui est hors du temps, hors de l'espace, hors de la matière, donc non temporel, non spatial, non matériel, qui est transcendant à tout ça, et qui a eu la puissance de tout créer, et qui a eu aussi la volonté de tout régler pour qu'un jour l'homme puisse advenir. Voilà. Donc c'est une définition a minima qui permet de... Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas à ça, si vous voulez. Qui croient qu'il n'y a pas de Dieu, que la matière peut tout expliquer, que la science va tout expliquer sans Dieu. Et en fait, aujourd'hui, quand on analyse les choses, c'est plus possible.
Oui, complètement. On va faire une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après avec vous parce que j'ai encore plein d'autres choses à vous demander. D'accord ?
Très bien.
Alors, on va écouter Christine and the Queens qui nous chante qui nous chante science-fiction. Alors nous voici de retour toujours avec Olivier Bonassi. Donc Olivier, maintenant nous allons passer. Allô ?
Oui.
Alors on va passer côté Dieu. On va passer aux erreurs de la Bible. J'ai beaucoup aimé lire ça aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, ou vous voulez que je vous lance sur tout
lu ? Je peux vous en parler. La Bible, effectivement, est un... Alors, il y a toute une partie dans ce livre qui parle de science, parce que la science a été le seul discours un peu structuré qui a semblé aller contre l'idée de Dieu.
Oui.
Parce que sinon, il y a beaucoup de preuves de Dieu du côté de la philosophie, des intuitions naturelles des hommes, d'ailleurs, parce que tout le monde a toujours cru en Dieu partout. La philosophie, la morale, le bien et le mal, tout ça, mais aussi tout ce qui concerne la révélation judéo-chrétienne avec des miracles, des apparitions, des saints, des expériences de Dieu, voilà, c'est beaucoup de preuves de Dieu. Mais effectivement, la science a été le seul discours qui a semblé s'opposer à tout ça, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de science. Mais il y a une deuxième partie où on parle quand même de quelques éléments importants de l'histoire qui sont ce qu'on appelle des anomalies de l'histoire et qui sont difficiles à expliquer en dehors du surnaturel. Par exemple, la Bible, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que la Bible ? La Bible, c'est un texte qui a été écrit par un peuple, le peuple hébreu, qui était un peuple de bergers, qui était un tout petit peuple dans l'Antiquité, vraiment plus petit que tous les empires qu'il y avait en Égypte, en Perse, à Babylone, chez les Romains, les Grecs, tout ça. Et donc, ces Hébreux, ils n'avaient aucune vie intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de, ils n'avaient pas de savants, pas d'intellectuels, pas de, d'astronomes, pas de bibliothèque, rien du tout. Et tous les autres empires en avaient. Mais les Hébreux, à un moment, ils vont dire aux empires, écoutez, vous, vous pensez qu'au ciel, il y a des dieux qui sont très nombreux et qui se battent entre eux, qui ont des histoires pas possibles avec des têtes d'animaux. Tout ça, c'est pas vrai. Il y a un seul Dieu, il est transcendant, il a tout créé, il y a eu un début à l'univers, il y aura une fin. Et puis, vous pensez, vous, les autres peuples, qu'il y a parmi les pharaons, les empereurs de Rome, vous pensez que c'est des demi-dieux ou des dieux, vous pensez qu'il y a des héros comme Achille, Hector, vous pensez qu'il y a des sous-hommes, des esclaves par nature et tout ça. Tout ça, c'est pas vrai, on est tous au même niveau. Et vous pensez, vous, que dans la nature, il y a des dieux dans les sources, dans les forêts, dans les morceaux de bois, que c'est Zeus qui fait les éclairs ou que c'est Poséidon qui fait bouger la mer. Mais tout ça, c'est pas vrai. La nature, c'est la nature. Il n'y a pas de dieu dans tout ça. Et les Hébreux vont encore dire à tous les peuples qui croient tous que le soleil et la lune sont des dieux, ils vont dire c'est pas des dieux, c'est des lampadaires. Alors la question qui se pose par rapport à la Bible, comment ça se fait qu'un tout petit peuple qui a aucune prétention intellectuelle va tout d'un coup avoir raison contre tous les autres grands empires de l'époque sur plein de sujets? Alors est-ce que c'est quoi, quelle est l'explication? Est-ce qu'il y a une explication avec Dieu, qui est que Dieu s'est révélé à ce peuple et il lui a donné un certain nombre de notions parce qu'il voulait pouvoir créer une relation valable avec ce peuple? Il fallait purifier la relation à Dieu, la relation au prochain, la relation à la nature. Ça, c'est une hypothèse croyante. Et puis, si vous n'êtes pas croyant, vous êtes obligé de penser que les Hébreux ont eu de la chance et que c'était donc une série de coups de chance incroyables, quoi. Alors, est-ce que c'est sérieux de penser ça? C'est pas évident. Voilà. Alors, ça, c'est la première partie de notre chapitre sur la Bible qui dit que les Hébreux ont connu des vérités inaccessibles aux hommes. Mais il y a une deuxième partie, parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais dans la Bible, il y a plein d'erreurs. » Alors, faut bien voir que dans la Bible, ce n'est pas un livre de science, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de philosophie. Le but de la Bible, c'est de nous mettre dans une vraie relation à Dieu. C'est pour ça qu'il a fallu purifier la relation avec, expliquer qu'il n'y avait pas des dieux partout dans les morceaux de bois ou dans le ciel, qu'il n'y en avait pas. Voilà. Donc, la Bible a parlé du sujet qui l'intéresse, c'est-à-dire la relation à Dieu, mais elle n'a pas dit du tout aux hommes que la Terre s'était créée il y a 13,8 milliards d'années, que la masse des quarks était née par interaction du champ de Higgs avec l'énergie de Planck, et tout ça n'a aucun intérêt, si vous voulez, pour la relation à Dieu. Donc la science, donc la Bible ne s'est pas prononcée sur des sujets scientifiques.
Oui, voilà.
Et enfin, sur les sujets scientifiques qui l'intéressaient pas. Elle s'est prononcée sur un certain nombre de sujets scientifiques parce que c'était directement lié à la connaissance de Dieu. Il fallait pas penser d'un point de vue scientifique que le soleil était un dieu parce que sinon, on pouvait pas avoir une vraie relation à Dieu, voyez. Donc la Bible a dû corriger cette erreur. Mais pour le reste, elle a laissé les hommes chercher avec leur raison. Et donc, tout ce qu'on dit être des erreurs de la Bible sont en fait simplement la culture scientifique de l'époque, la culture culturelle, si j'ose dire, la culture habituelle des gens que Dieu a laissé à l'appréciation des hommes, parce que avec la raison on peut aller chercher des réponses à toutes ces questions. Il n'y a pas besoin de révélation, et donc c'est ce qu'on a fait dans le temps, et que maintenant on arrive à bien expliquer toutes ces choses là
oui, parce que vous décrivez tout, c'est-à-dire que la création s'est pas fait en 7 jours alors qu'il a fallu 13 milliards d'années, que quand on parle de milliards, et ben le mot à cette époque-là où ça a été écrit n'existait pas et n'avait pas la connotation de ce qu'on écrit aussi aujourd'hui.
Non seulement le mot n'existait pas, parce qu'effectivement il n'y a absolument rien dans l'univers des Hébreux ou de la plupart des hommes de tous les temps qui peut être compté en milliards. Si je vous demande à vous de compter jusqu'à un milliard en prononçant un chiffre à chaque seconde,
je ne peux pas.
Non mais il va vous falloir plus de 30 ans. Oui. Il faudrait que vous fassiez que ça pendant plus de 30 ans. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt de parler de milliards pour des gens qui vivent une vie normale. Et puis en plus, c'est pas l'objet de la Bible de parler de comment le monde s'est créé. C'était pas. Par contre, que le monde a eu un début et que Dieu soit à l'origine de ce début, ça c'est une chose qui est importante pour avoir une vraie relation à Dieu. Donc la Bible l'a dit et les Hébreux en étaient persuadés, alors que tous les autres peuples ne le savaient pas. Vous voyez. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vrai.
Et puis il y avait aussi, dans ce que j'ai lu, quand on parlait de la Terre, comme il y a eu l'histoire que la Terre pouvait être plate, Mais en fait, il parlait, d'après ce que j'ai lu aussi, plus de la Terre telle qu'on l'a sous nos pieds et non pas du globe terrestre.
Oui, non, en fait, aujourd'hui, si vous dites que le soleil se lève, vous savez, la météo à la télévision, oui. Tous les jours, ils disent que le soleil va se lever à telle heure. Donc, en fait, c'est une manière de parler. Quand vous dites aux quatre coins de la Terre, ça veut dire, en fait, c'est partout sur la Terre. C'est des expressions. Mais la personne qui dit que le soleil va se lever demain matin à 8 heures, en fait, il sait très bien que le soleil ne se lève pas et que la Terre tourne autour du soleil et que la Terre tourne sur elle-même. Et donc, c'est juste une manière de parler.
Oui.
Donc, quand vous dites on part aux quatre coins de la planète ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire que vous pensez... Ça se dit encore aujourd'hui, des expressions comme ça. Et ça ne veut pas dire que vous pensez que la Terre est carrée. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc,
la Bible ne s'est pas prononcée sur ces choses-là. On a eu beaucoup de critiques parce qu'il y a des versets d'Isaïe où on dit, il y a un verset d'Isaïe où il dit que il y a le cercle de la Terre ou la sphère de la Terre. Et donc les gens disent que, vous voyez, la Bible a bien dit qu'elle était sphérique et tout, mais non, ce n'était pas du tout l'objet de la Bible de parler de ça. Donc franchement, je pense que ça se comprend très très bien. L'objet de la Bible, c'est de nous parler dans le langage naturel des hommes, mais de parler de Dieu et de la relation à Dieu. Tout le reste n'a pas été... C'était pas l'objet de la Bible de nous faire parvenir des connaissances en avance. Ça n'aurait aucun intérêt pour un Hébreu ou pour un Africain ou pour un Français de tous les siècles qui s'intéresse à la relation à Dieu de savoir combien, quand l'univers a été créé en nombre de milliards d'années, vous voyez.
Oui.
Aucun intérêt. Donc c'était pas ça que la Bible a transmis comme révélation.
D'accord. Alors là, on va encore faire une petite coupure, mais je vais quand même vous garder, si vous permettez, un petit peu avec nous. Parce que je voudrais qu'on parle, qu'après, on va parler de quelqu'un qu'on connaît bien, en tout cas depuis des centaines d'années, c'est Jésus. Donc il y a tout un passage que j'ai trouvé aussi extrêmement passionnant, donc on va s'en parler dans un instant, on va continuer. Et puis après, en deuxième partie d'émission, j'aurai aussi une petite surprise pour vous, c'est pour ça que je vous demanderai de rester en ligne même quand on aura parlé. On a comme qui dirait un petit cadeau. À tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
L'eau et le vin, je veux l'eau. La pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains, et le vin quand il convient. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin, la mer qui me revient, je veux l'eau des marins. Au chagrin et les vins d'en rajouter, trop de tanins me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La terre et le venin, je veux l'eau des matins, aussi beau que le pain qui me parle, et l'eau qui ne dit rien. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, l'eau et le vin. Au chagrin et les vins d'en rajouter, trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin, je veux l'eau et le vin. La pierre et le raisin, je veux l'eau dans tes mains. L'eau. Poisson dans l'un, poison dans l'autre, l'eau et le vin. Au chagrin et les vins d'en rajouter, trop de tanin me fait sombrer. En eau douce, en zone sinistrée, il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin. Il est vain d'en rajouter. Il est vain d'en rajouter. L'eau et le vin. Je veux l'eau et le vin. Il est vain d'en rajouter.
Alors on vient d'écouter Alain Bachung qui nous chantait l'eau et le vin et on retrouve Olivier Bonassi. Olivier, parlons un petit peu de... Oui, allez-y.
Non, je signalais juste que j'étais là.
Oui, il y d'accord. Il n'y a pas eu de problème de coupure. Donc, à la question qui est Jésus, alors là, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, il faut quand même que je les lise. Donc, il y a sept possibilités dont, et vous répondez à chacune. Donc, il n'a pas existé, c'est un mythe créé postérieurement. C'est un grand sage, c'est un fou, c'est un aventurier qui a échoué, c'est un prophète. C'est le Messie et un homme extraordinaire, mais seulement un homme. C'est le Messie et Dieu fait homme. Et là, chaque... Alors là, je vous laisse parler pour...
Oui, alors, le cas de Jésus est un cas aussi, c'est aussi une anomalie de l'histoire. C'est-à-dire, c'est une situation historique qui est très difficile d'expliquer en dehors du surnaturel. Parce que, effectivement, si vous regardez de quoi il s'agit, c'est un jeune homme de 30 ans qui sort de Nazareth, et qui va parler pendant 3 ans sur les routes de Galilée et de Judée, et qui, à la fin, meurt, après s'être fait quelques amis. Bon, une histoire comme ça, ça doit absolument pas marquer l'humanité. Or, pourtant, c'est cet homme-là qui a eu le plus d'influence sur l'histoire de l'humanité, sans aucune comparaison avec personne. Il a cassé l'histoire en deux. D'un bout à l'autre de la Terre, on se réfère à sa date de naissance pour tous les actes qu'on fait de toutes sortes. Et ça devient inexplicable aussi quand on comprend que non seulement lui, il a dit « le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Et effectivement, 2000 ans après, ce qu'il a dit, c'est le best-seller de tous les temps. Nous, notre livre qui a bien marché, c'est un moustique par rapport à la Bible ou à l'Évangile, qui est le livre le plus diffusé au monde. Et donc, comment ça s'explique, si vous voulez ? C'est très difficile parce qu'en plus, il n'a rien écrit. Il n'a pas levé d'armée, il n'a rien conquis, il n'a pas fait de découverte en science, il n'a pas fait d'œuvre artistique, il a rien changé dans les lois de la cité. Voilà, il n'a rien fait de ce qui marque d'habitude le monde. Et pourtant, c'est bien lui qui est l'homme le plus qui a eu le plus d'influence sur non seulement sur les sociétés, mais aussi sur les personnes. Il y a des millions de gens qui se sont consacrés à lui et tout ça. Alors comment vous expliquez ça ? Il y a deux explications. Pareil, si Dieu existe et que cet homme a un rapport avec Dieu, ça devient cohérent, mais si Dieu n'existe pas, ça défie toutes les lois de la sociologie et de l'histoire, si vous voulez. Donc, il faut trouver une explication, et on a essayé d'en chercher avec les sept hypothèses que vous mentionnez, mais chacune ne tient pas, pour des raisons variées. Oui. Il y a des gens encore aujourd'hui qui croient que Jésus n'a peut-être pas existé, mais c'est impossible de penser ça.
Excusez-moi, je vous ai coupé. Ouais. Je voulais dire que c'était très intéressant les explications qui sont données sur chacun des points.
Oui, absolument. Vous voyez, il y a un athée en France qui s'appelle Michel Onfray qui a dit que lui pensait que Jésus avait jamais existé. Mais en fait, cette idée que Jésus a jamais existé, elle est complètement loufoque. Parce que pendant 18 siècles, personne, même ses adversaires les plus intimes, les juifs, les païens, tout ça, il n'y en a pas un seul qui a dit qu'il n'avait pas existé. Alors ça aurait été quand même, s'il n'avait pas existé, ça aurait été la meilleure défense pour contrer cette influence de cet homme. Vous voyez, mais donc cette hypothèse est farfelue. Et toutes les autres sont aussi farfelues, en fait, parce que il y a Renan qui disait que c'était un grand sage. Mais un sage qui dit avant qu'Abraham existait, moi je suis, ou si vous mangez pas mon corps et mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle, c'est pas un sage, c'est un fou.
Oui.
Ou alors c'est un dieu. Mais il n'y a pas de milieu entre les deux, si vous voulez. Il n'y a pas de possibilité de dire c'est juste un homme qui est un peu plus malin que les autres. Non, parce qu'il a dit des choses, il a fait des choses qui sont invraisemblables et qui ne peuvent s'expliquer que soit parce qu'il est fou, soit parce qu'il est Dieu. Voilà.
Mais en même temps, quand vous en parlez, que vous expliquez, puis qu'on entend certains textes qui aujourd'hui seraient pris comme quel prétentieux, quel fou, et en même temps, il y a une autre explication qui arrive derrière. Alors, on va en parler un petit peu à trois, parce que je vous explique pourquoi, Olivier. Pendant que nous avions notre entrevue, la première partie d'émission, et il y a donc une artiste, auteure, compositrice, interprète, qui est chroniqueuse dans cette émission, qui nous écoutait, qui s'appelle Noémie Chelariou, qui est en ligne avec nous et qui a créé une chanson pour vous, d'après ce qu'elle a entendu. Voilà.
Formidable.
Donc elle avait 30 minutes pour faire une chanson, pour faire un thème de quelque chose. Donc on va en parler, on va lui dire bonjour, bonjour Noémie. Allô ? Ah ben on l'a pas ? Est-ce qu'on l'a ou on l'a plus ? Bon, en même temps, on va pouvoir écouter ce qu'elle a créé là-dessus. Donc elle a pas entendu tout ce qu'on a fait sur les erreurs de la Bible, mais la première partie lui a donné du grain à moudre sur tout ce qu'on a fait. En tout cas, je vous le répète.
Elle arrive à créer des mélodies comme ça en 10 minutes chrono.
30 minutes, oui. Vous allez voir, c'est toute une performance. Vous allez entendre ce qu'elle a écrit à ce moment-là. En tout cas, en attendant qu'elle arrive, je voulais vous dire que ce livre qui a super bien démarré en France a été un top succès. Je pense que ça va continuer parce que il y a, comme je le disais à une personne extérieure à qui je parlais de ce livre-là, je l'ai lu un peu d'une traite pour pouvoir faire l'entrevue avec vous. Et j'ai pas pris le temps de m'arrêter assez à chaque segment, on va dire. Donc j'ai l'intention de le relire pour moi en rentrant plus dans le détail de tout.
Merci,
ça.
C'est très bien. Mais oui, on a des très bons commentaires. C'est vraiment, on fait beaucoup de réunions publiques et autres, et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant qu'ils avaient offert ce livre à leur enfant, à leur conjoint, à leur ami qui ne croyait pas en Dieu ou qui était sceptique et tout, et que les gens étaient vraiment bousculés. Parce qu'en fait, c'est pas tellement notre livre. Nous, on a essayé de faire un travail de vulgarisation et de mise à disposition des gens. Mais derrière ce livre, il y a une réalité qui existe, c'est-à-dire que la science s'est retournée et la science conclut deux choses vraiment incroyables. Premièrement, il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Donc le temps, l'espace et la matière sont liés. Ça, c'est Einstein qui en a eu l'intuition, qui l'a mis en théorie, en équation. Il en a fait des prévisions, ça a été observé, on en est sûr. Le temps, l'espace et la matière sont liés et ils ont très certainement eu un début absolu. C'est-à-dire que la cause qui a permis cette émergence, elle est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Elle a eu la puissance de tout créer et en plus, elle a tout réglé de manière absolument folle pour que les données initiales de l'univers, les lois de la physique et la loi de la biologie permettent qu'un jour la vie soit possible. Ce qui était, on le sait aujourd'hui, on en est sûr, c'est totalement improbable. Et donc, voilà, ces deux choses-là changent complètement la donne parce que la science qui semblait de temps en temps ne pas avoir besoin de l'explication de Dieu, aujourd'hui, en a besoin. Et donc, ça change tout parce que toutes les autres preuves restent valables, les preuves liées aux miracles, aux apparitions, aux saints, aux rencontres. Vous savez, les gens qui rencontrent Dieu, c'est, pas seulement les apôtres ou les Sainte Thérèse d'Avila, mais c'est aussi André Frossard qui a écrit un livre « Dieu existe, je l'ai rencontré », ou des tas de gens qui ont des songes, des visions, des apparitions, des prières profondes et tout ça. On en a dans toute l'histoire du monde. Moi, j'en connais au moins 15 qui ont eu des apparitions ou des visions de Jésus ou de Marie. Donc, tout ça, c'est un ensemble de preuves qui est énorme, qui a toujours convaincu les gens depuis des siècles, mais la science avait semblé s'opposer, maintenant la science ne s'oppose plus du tout. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un faisceau de preuves fortes, rationnelles, convergentes, indépendantes, qui permet d'arriver à une conclusion très certaine.
Et puis, en plus, c'est un livre, ce qu'il y a de merveilleux, c'est un gros livre, c'est vrai, mais par contre, on peut le prendre... On peut prendre des chapitres qui ne sont pas au début, puis revenir sur ça. Moi, je l'ai lu du début à la fin, pour bien comprendre l'histoire, pour vous en parler. Mais on peut vraiment prendre certains chapitres qui nous intéressent d'abord, avant d'aller en lire d'autres. C'est très...
M'entendez-vous ?
On perd pas le lien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.
Exactement, je crois que Noémie est là, non ?
Oui, Noémie est là, oui. Noémie est là, on est en train...
Vous m'entendez ?
Oui, oui.
Oui.
Oh boy, ok, je suis là, désolée.
alors, Noémie, tu criais fort, mais maintenant on t'a entendu, donc Olivier est avec nous. Alors, tu vas pouvoir nous expliquer, j'étais en train de lui parler, parce que ce que je veux dire, Olivier, c'est que vous allez arriver au Québec pour quelques jours.
Oui, absolument, je prends l'avion demain matin.
Oui.
Et donc, je viens au Québec pour 2 jours et Montréal pour 4 jours.
Super, alors bienvenue déjà pour ça. Et ensuite, va... Alors Noémie, qu'est-ce que tu as pensé? Comment tu as entendu ça? Parce que Olivier est très curieux de savoir comment ça se passe pour toi dans ta tête.
Absolument.
Dans le fond, j'ai trouvé intéressant que la première chanson de l'émission soit la chanson « Si Dieu existe ».
Mais oui, mais c'était intentionnel un petit peu. Hein.
C'est pas un hasard.
Je me suis dit, en cette époque où ceux et celles qui ne possèdent pas nécessairement de connaissances en sciences, on doit souvent se taire dans nos questions. Et je me suis rendu compte que ça passe encore de poser des questions à travers une chanson.
Ah oui, c'est vrai aussi, oui.
Donc, j'écoutais la voix d'Arlette en début d'entrevue, qui me donne souvent la première phrase pour commencer. Elle a dit « J'ai des questions dans tous les sens ». Eh bien voilà, ça m'a fait un début de refrain.
D'accord. Alors, on écoute la chanson.
Voilà.
Oui, vas-y, aujourd'hui.
J'avais à me débrouiller avec une guitare aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est avec une guitare. Parce qu'il faut savoir, Olivier, que Noémie fait ça régulièrement chaque semaine. Et que parfois, c'est avec une guitare, parfois le piano, parfois une contrebasse. Donc, aujourd'hui, c'est la chanson guitare. Donc, on l'écoute, restez avec nous et on en parle tout de suite après.
Parfait.
J'ai des questions dans tous les sens. Il est un début et une fin. À tout ce qui est, peut-être aussi à mes questions, qui sait. Paraît que le passé est infini, mais où sommes-nous avant d'être ici? Pourtant je ne suis pas coincée avant, du moins pas avant que vous me l'ayez dit. J'ai des questions dans tous les sens. Il est un début et une fin. À l'univers, à tout ce qui est, peut-être aussi à mes questions, qui sait. Paraît que nous fûmes bactéries, que rien n'est grand avant d'être petit. C'est l'histoire qui fait rêver les savants. La vie se raconte au présent. Et j'ai des questions dans tous les sens. Il est un début et une fin. À l'univers, à tout ce qui est, peut-être aussi à mes questions. Qui sait? Paraît que les dieux ont changé, que le monde bascule sur une virgule. Si ce n'est pas Dieu, c'est un calcul parfait, invérifiable à jamais. J'ai des questions dans tous les sens. Il est un début et une fin à l'univers, à tout ce qui est. Peut-être aussi à mes questions, qui sait?
Super!
Oui.
Alors là, vous voyez qu'elle vous a bien écouté.
Absolument, oui. Excellent.
Qu'est-ce que t'as... Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Noémie, dans l'entrevue? Qu'est-ce que tu as pu entendre? Est-ce que tu as pu entendre après, quand on a parlé des erreurs de la Bible, quand on a parlé de Jésus, tu as pu entendre ou tu étais en train de faire la chanson?
Quand j'ai quitté l'entrevue, non, c'est pas vrai. Quand je suis revenue dans l'entrevue, vous parliez que Michel Lompré avait énoncé que Jésus n'avait peut-être jamais existé.
Ah, quand oui. On a parlé... Oui, d'accord, oui.
Donc, ben, je suis partie de l'entrevue au moment où vous parliez des calculs. Soit Dieu a créé la vie et que c'est voilà, c'est ça, ou sinon... Il y a une machine au-dessus de nous à créer des univers. Vous étiez là. Ouais. d'où l'idée du calcul à la virgule près, là. j'aurais pu vous écouter encore et encore, là. C'est juste que là, je devais honorer ma créativité.
Mais oui.
C'était très intéressant.
Oui. Et je peux te dire que le livre est passionnant. Vous vouliez dire quelque chose, Olivier?
Non, je trouvais que c'était vraiment une performance d'avoir fait une chanson aussi rapidement. Je ne sais pas comment vous faites, mais bon, c'est... Et en plus, c'est très beau, ouais.
Eh bien, vous l'aurez, puisque quand on vous demandera votre adresse mail et on vous enverra la chanson. C'est votre premier cadeau de Montréal, mais il y en aura d'autres, je vous rassure.
Exactement.
Quand vous allez venir. Donc, c'est tout ce livre qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve » et on apprend plein de choses. Même pour certaines situations historiques avec des savants et des choses que je savais déjà ou j'avais appris, enfin que je croyais avoir appris. Et en même temps, c'est comme si je ne savais qu'une page et que vous m'en montriez tout un cahier.
Oui, ben, c'est très gentil. Mais ce que vous disiez est juste, hein, ça se lit dans l'ordre que vous voulez. Et donc, vous n'êtes pas obligé de. Les chapitres sont indépendants, donc vous pouvez lire ce livre dans l'ordre que vous voulez, c'est à venir butiner comme dans un buffet. Mais voilà, on a la chance d'avoir des bons retours et j'espère que le débat va. Je vais venir au Canada, je vais parler avec le président des sceptiques du Québec. Avoir aussi des lundis, là, et je vais aussi avoir des émissions à droite et à gauche avec des débats. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on a beaucoup de débats comme ça en France. Et en fait, on s'aperçoit que le dossier est extrêmement solide.
Alors,
c'est intéressant.
Oui, c'est génial. Vous en faites où, des débats? Vous allez être où? Parce que comme on arrive un petit peu plus vers la fin, je voudrais situer où on va pouvoir vous entendre.
Alors, il y a un moment où donc, il va se situer... attendez que je ne dise pas de bêtises, faut que je regarde mon agenda, voilà. Donc, il y a la Maison diocésaine de Québec à 14h le samedi,
oui.
samedi 30, donc rue Marie-Victorin, donc ça sera le rendez-vous principal du Québec. Il y en a un peu avant, il y a des médias et tout, mais au niveau rencontre, c'est celle-là. Et puis, le débat avec Michel Bellet, ça sera président des sceptiques du Québec, ça sera lundi à 11h. Après, il y a la librairie Pauline à Montréal à 18h le lundi 2 mai. Et puis après, il y a des émissions radio et télé et puis des interviews avec des journalistes.
D'accord.
Donc tout ça sera... Mais c'est pas pour le public. Donc pour le public, il y a seulement la librairie Pauline à Montréal le 2 mai à 18h et la maison diocésaine le 30 avril à 14h à Québec.
Et oui, parce que quand j'ai envoyé mes propositions de date, vous étiez déjà pris, donc j'ai dit bon bah tant pis, au moins au téléphone quoi. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment super sympa de nous avoir répondu. Écoutez, ma dernière question sera, c'est pas votre... Là, on a reçu l'auteur, mais vous êtes polytechnicien, vous êtes un homme d'affaires. Comment on a dit le pourquoi de ce livre ?
Alors, le pourquoi du livre, l'histoire, elle est assez simple. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais pas croyant. Je faisais des études scientifiques, donc j'ai fait maths sup, polytechnique en France. Et j'étais pas du tout croyant. Je pensais vraiment que les croyants étaient irrationnels, qu'ils croyaient des choses pas possibles et tout. Et puis, j'ai commencé à monter des entreprises, à gagner de l'argent, à m'amuser à beaucoup plus vite que mes petits camarades. Et j'étais très content de ça au début. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça m'apporte pas ce que je rêvais que ça m'apporterait. C'est-à-dire beaucoup de bonheur et tout ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait sur la Terre? Quel est le but de tout ça? À quoi ça sert toutes ces choses? Et je me suis posé les grandes questions, si vous voulez. Mais j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de réponse, parce que je me disais, s'il y avait des réponses à ces questions, tout le monde les aurait trouvées et on le dirait. Mais en fait, donc j'ai cherché sans chercher, et puis un jour je suis tombé sur un bouquin d'un normalien brillant catholique qui disait, le livre s'appelait « Y a-t-il une vérité ?» Il s'appelait Jean Doja. Et je me suis dit, il parlait de manière rationnelle de toutes ces choses-là. Et je me suis dit, je vais trouver la faille en 5 minutes. Donc, j'ai commencé à regarder pour voir où était la faiblesse
L'erreur.
Du livre.
Oui.
Et plus je regardais, moins je trouvais de faiblesse. Je trouvais que le gars, il raisonnait bien. J'arrivais pas à trouver où était la faille. Donc, ça me perturbait un peu.
D'accord.
Et j'ai creusé. Et finalement, au bout de plusieurs mois et années, je me suis réveillé en étant croyant. Voilà. et j'étais très étonné. Et donc, ce genre de choses. Alors, après, j'ai fait plein de projets à droite et à gauche pour l'Église catholique, parce que je suis devenu catholique, alors que j'étais protestant et un peu agressif contre l'Église catholique.
D'accord.
Enfin, de tradition, alors que j'étais pas croyant du tout. Et donc, ça s'est concrétisé par des projets. Et puis, un jour, j'ai 6 enfants, donc mes filles aînées étaient dans une classe de philo avec un prof de philo qui était pas croyant. Et le gars parlait mal de la religion. Alors mes filles ont dit, si mon papa était là, il vous répondrait. Et donc, je suis rentré en contact avec lui. Il m'a demandé de faire un exposé sur tout ça. Donc, je l'ai fait. Et on a mis ça sur Internet. Et ça a donné une vidéo qui a fait 1 700 000 vues, qui s'appelle « Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne ».
D'accord.
Et Michel-Yves Bolloré a vu cette vidéo dans les premiers. Il m'a dit, c'est très bien ce que tu as fait, mais on peut faire beaucoup mieux. Il m'a dit, moi, ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets. Il faudrait qu'on se voit et qu'on fasse un livre. C'est comme ça qu'est née l'idée de ce livre. Il y a 7 ans, et moi j'avais pas le temps à l'époque, mais 3 ans après je suis revenu le voir en lui disant maintenant j'ai le temps si tu veux, et donc on a fait cette opération ensemble.
Ah ben c'est super, alors là vraiment une très belle idée. On est à la fin de cette entrevue, je vous remercie 1000 fois d'être resté jusqu'au bout. Raccrochez pas tout de suite, on va prendre votre adresse mail pour vous envoyer la chanson de Noémie.
Merci.
Merci pour tout, puis bonne continuation et puis bienvenue ici au Québec.
Merci à vous.
Au revoir, Olivier.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Donc, Noémie, toi, de ton côté... Allô, Noémie ?
Allô ?
Oh, j'ai cru que je t'avais perdu. Donc, voilà, c'était très passionnant. Je t'avoue que je ne savais pas vraiment par quoi commencer quand je me disais est-ce que je commence par Dieu ? Est-ce que je commence par la science d'abord ? Enfin... J'avais tellement, comme tu l'as si bien écrit, des chansons dans tous les sens. Mais là, on arrive à la fin de cette entrevue. J'espère que ça t'a plu beaucoup.
Oui, ça m'a plu. C'était très intéressant. Et je vais faire comme je fais souvent. Et je vais réécouter cette émission dès qu'elle sera affichée sur le site de Vues et Voix pour entendre ce que j'ai manqué.
Ah oui, parce que... Tu vas voir, il a beaucoup de choses à raconter. C'est vraiment passionnant. Et puis lire ce livre, c'est vraiment, écoute, il y a une tonne de renseignements. J'étais encore moins avancée après l'avoir lu pour faire une entrevue dessus. Je veux dire, pas au sujet de tout ce que j'ai appris avec le livre. Donc, le livre s'appelle « Dieu, la science, les preuves ». En 2 mots, bien sûr. Et très, très intéressant. En tout cas, elle est superbe, ta chanson. Bravo, Noémie.
Merci, ça m'a fait très plaisir de créer et de m'inspirer de votre entrevue.
C'était vraiment chouette, bravo. J'ai beaucoup aimé, puis en plus, elle donne l'envie de... Tu sais, c'est comme ça tourne dans la tête, là, ça, on va s'en souvenir. Je te dis au revoir à toi aussi. Et puis, on se dit, nous, à la semaine prochaine. D'accord ?
Alors, avec plaisir.
On dit merci à Olivier Bonassi, merci à Noémie Chélariou, merci à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Et puis, merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont suivis, parce qu'on va se retrouver demain. Et puis, avec Noémie, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel artiste. Et t'y arrives de mieux en mieux, faut que je te trouve des pièges, Noémie, un de ces jours. Je vais y arriver. Bonne soirée à toutes et tous. Et puis, on se dit à demain. Au revoir.
Au revoir.